Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure? Vous savez, aujourd'hui et toute cette semaine, nous allons parler de l'importance d'un cœur pur et comment il influe sur notre relation avec Dieu et avec les autres. Je sais que vous allez être bénis. Père, je te rends grâce pour la parole ce soir et je prie qu'elle influe sur nos vies et qu'elle nous aide à veiller sur nos cœurs. Si j'étais montée en chair ce soir sans vous dire ce que je vais enseigner et que je vienne vous dire, j'ai appris cette semaine que j'ai une maladie de cœur. Tout le monde aurait dit « Oh !» Mais la vérité est que j'ai vraiment une maladie de cœur et vous aussi. Chacun de nous dans cette salle ce soir a une certaine maladie de cœur. Et chaque fois que je vais chez le médecin et que je me fais faire un bilan de santé, il me fait un examen du cœur. Et je crois que les chrétiens doivent vraiment examiner leur cœur beaucoup plus souvent. Car c'est étonnant, honnêtement et sincèrement, c'est vraiment étonnant ce que nous faisons les choses machinalement. Et continuons à faire la chose chrétienne que nous faisons. Et pourtant, il s'est glissé quelque chose dans nos cœurs qui nous fait mal et qui fait mal aux autres parce que ce qui est en nous va sortir de nous. Et plus vite vous détectez une maladie de cœur et que vous la traitez, mieux c'est pour vous. Quand nous laissons les mauvaises choses dans notre vie sans surveillance longtemps, elles s'enracinent plus profondément et elles deviennent plus difficiles à traiter. Nous allons passer beaucoup de temps ce week-end à parler de la condition de nos cœurs et nous allons parler de la manière dont Dieu teste nos cœurs également. Et les tests que nous passons dans la vie sont très importants pour nous. Dieu ne joue pas pour voir ce que nous pouvons supporter. Dieu nous fait un test, non pas parce qu'il veut savoir ce qu'il y a en nous, parce qu'il sait tout déjà, mais parce qu'il veut que nous sachions nous-mêmes ce qu'il y a en nous. Et nous sommes parfois surpris par ce qu'il y a en nous. Amen. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Et il veut que nous manifestions ces choses pour que nous puissions nous en occuper et y faire face, et comme ça nous grandissons. La vérité nous affranchit. Nous ne sommes jamais affranchis en vivant dans l'obscurité et en vivant dans la tromperie. Satan est le maître de l'obscurité. Tout ce que nous pouvons tenir secret dans nos vies, Satan peut le contrôler. Mais quand ça sort à la lumière et ça se révèle, si nous le voyons comme il faut et nous laissons Dieu s'en occuper comme il faut, nous passons à un nouveau niveau de liberté et à un nouveau niveau de puissance. Amen. Donc, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur en toute diligence et en toute vigilance, car de lui sont les issues de la vie. Maintenant, regardons ça. Il ne dit pas que quelqu'un va garder votre cœur, que Dieu va garder votre cœur, que Joyce va garder votre cœur, que votre voisin va garder votre cœur, que votre pasteur va le garder. Il dit « garde ton cœur ». C'est une responsabilité que chacun de nous doit prendre. Et si vous ne retirez rien d'autre de ce message, je veux que vous compreniez que vous avez la responsabilité de garder votre cœur. Et croyez-moi, c'est pratiquement un travail à plein temps. Car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à n'importe quel moment. On ne sait jamais ce que quelqu'un pourrait nous dire, qui pourrait nous blesser, et tout à coup, nous aurons une blessure là-dedans que nous devons traiter. Nous ne savons pas quand quelqu'un va nous décevoir, nous trahir ou nous laisser tomber. Nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons vraiment pas ce que tout le monde fera. Et donc, nous devons constamment travailler avec le Saint-Esprit pour garder nos cœurs comme il faut. Ceci pourrait être, pour certains d'entre vous, un des séminaires les plus importants auxquels vous auriez jamais assisté. Parce qu'il n'y a rien de plus important que notre vie intérieure. Il y a eu une poignée de choses qui ont vraiment changé ma vie spirituelle avec Dieu. Quand j'ai été régénérée, et rempli de l'Esprit quand j'ai appris l'importance de chercher la face de Dieu et non seulement sa main. C'est très important d'arriver à ce point car ce qui est précieux, c'est la présence de Dieu et non seulement ce qu'il peut faire pour nous. C'était important pour moi, mais une autre de ces choses était la vie intérieure. Apprendre que ma vraie vie est en fait la vie qui est en moi. Le saviez-vous? Ce n'est vraiment pas... La vie n'est pas vos circonstances. La vie n'est pas la maison que vous habitez, ou le travail que vous avez, ou l'argent que vous avez à la banque, car vous pouvez avoir tout ça et être très malheureux. Le monde est plein de gens riches et malheureux. Plein de gens prospères et malheureux. Plein de gens qui vivent dans de grandes maisons et qui sont malheureux. Et je ne sais pas, vous savez, il n'y a pas de mal à jouir des meilleures choses de la vie. Dieu veut vous bénir, mais ce n'est pas votre vraie vie. Votre vraie vie, c'est la vie qui est en vous. Et c'est étonnant ce que vous pouvez être heureux au milieu des pires circonstances possibles et combien vous pouvez être paisible au milieu du désarroi qui sévit dans le monde aujourd'hui, si vous savez garder votre cœur dans la condition qu'il faut. Quelqu'un peut dire amen à ça? Matthieu 5, 8 dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » J'aime ça. Dieu vous parle si vous gardez votre cœur pur. Vous voulez les secrets de Dieu? Gardez votre cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceci ne veut pas nécessairement dire le voir de vos propres yeux, mais vous expérimenterez la présence de Dieu. 1 Pierre 3, 3 et 4 nous dit à quel point l'homme intérieur est important pour Dieu. Regardons-le sur l'écran, s'il vous plaît. Que votre parure ne soit pas seulement les coiffures recherchées et les cheveux tressés, les bijoux d'or ou les toilettes distinguées, mais que ce soit la parure intérieure et la beauté de la disposition cachée du cœur, avec le charme incorruptible et impérissable d'un esprit doux et paisible, qui n'est ni inquiet ni troublé, mais qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, je devrais parler aux dames pour une minute, car je sais que nous passons beaucoup plus de temps à nous pomponner que la plupart des hommes. Peut-être pas tous les hommes, peut-être que certains d'entre vous. Vous savez, non mais... Vous savez, Dave prend pas mal de temps pour se faire beau le matin, mais ça ne lui prend pas aussi longtemps que moi. Et je crois que si nous passons la même quantité de temps à examiner nos cœurs que nous passons à examiner nos visages, allez, vous savez comment nous sommes. Nous nous regardons dans tous les miroirs que nous voyons. Vous portez un miroir dans votre sac à main. J'ai sorti le mien il y a quelque temps. Je me suis regardée avant de sortir ici. Je me suis habillée à l'hôtel, je me suis regardée dans le miroir, j'ai examiné mon collier, ma tenue, j'ai tout examiné. Vous savez, examiné. Nous vérifions toujours. Et ici, il y a un miroir dans la chambre verte. Je ne sais pas pourquoi on les appelle vertes, elles ne sont jamais vertes. Et un miroir là, examiné. Je suis sortie ici en me regardant dans le miroir là-bas. Et on a une torche électrique et je m'examine avant de sortir. Donc, si nous pouvons nous donner tout ce mal pour examiner notre apparence et s'assurer que rien n'est de travers, que le rouge à lèvres est toujours là, que les boucles d'oreilles ne sont pas de travers, la fermeture est claire et comme il faut, nous pouvons sûrement passer un peu de temps à examiner nos cœurs. Car, à dire vrai, Dieu s'en fout pas mal et me donne pas vraiment d'importance à ma tenue vestimentaire. Car ce qu'il voit vraiment, et à propos, l'ennemi le voit aussi, c'est comment je suis vêtu dans l'esprit. Je veux que vous compreniez cette réalité. Le royaume spirituel est aussi réel que le royaume naturel. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas là. Et nous devons commencer à prêter plus d'attention à notre vie intérieure qui est nos pensées et nos attitudes. Amen. Est-ce que ça va pour vous jusqu'ici? Maintenant, quand nous parlons du cœur, notre cœur comprend, il comprend les émotions, toute notre vie spirituelle, notre vie mentale et notre vie physique. C'est la partie la plus secrète où c'est la partie la plus cachée de notre vie. C'est la partie la plus profonde de nous, notre cœur. Une des premières leçons que j'ai apprises de Dieu, et je me souviens toujours, où j'étais assise dans ma maison, j'étais assise sur le canapé. Je donnais une petite étude de Bible à la maison à l'époque. J'avais un grand rêve et une vision, mais j'étais très, très, très loin de là où je suis aujourd'hui. J'avais 3 enfants en ce temps-là et je tâchais de les endormir tous les jours pour avoir 2 ou 3 heures libres pour étudier, car je sentais que j'avais un appel sur ma vie. Je ne pouvais pas suivre des cours de théologie, j'avais 3 enfants et donc j'étudiais tous les jours avec le Saint-Esprit. Et une des premières choses que Dieu m'a apprises, et je crois que c'est très, très important pour notre vie, et c'est une leçon que nous devons apprendre tout le temps, c'est l'importance des motifs. Car le motif n'est vraiment pas ce que nous faisons. Écoutez-moi. Le motif n'est vraiment pas ce que nous faisons, c'est pourquoi nous le faisons. Et la Bible nous dit très clairement dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 15, que nous allons lire, que quelle que soit la bonne œuvre que nous faisons dans notre vie, si nous la faisons avec un mauvais motif, cette œuvre ne sera pas agréable à Dieu et nous en perdrons la récompense. Et je me demande combien de gens passent toute leur vie à essayer de travailler pour impressionner les autres, et cela par leurs bonnes œuvres et leurs bonnes actions. Et au jour du jugement, quand toutes ces œuvres passent le test du feu, qui est, je crois, les yeux de Jésus, quand elles passent par le feu, elles seront détruites. Corinthiens 3:13. L'œuvre de chacun sera clairement et ouvertement manifestée, montrée pour ce qu'elle est vraiment, car le jour de Christ la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera et jugera le caractère et la valeur de l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement qui est le produit de ses efforts subsiste au test, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée sous le test, il subira la perte de tout, il perdra sa récompense, bien que lui, il sera sauvé, mais seulement comme quelqu'un qui a passé au travers du feu. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, car notre salut est basé sur la grâce et la miséricorde de Dieu et le sang répandu de Jésus-Christ. Mais nous aurons des récompenses au ciel pour nos œuvres qui sont faites ici sur terre, mais seulement celles qui sont pures, seulement celles qui sont faites pour une bonne raison. Maintenant, quelles seraient certaines des mauvaises raisons? Eh bien, Matthieu 6 nous donne un petit aperçu. Il dit, « Quand vous priez, entrez dans votre chambre la plus privée, dans un endroit comme le cabinet, et priez. » Que vos prières soient en secret pour que votre Père céleste vous récompense en public. Il ne dit pas qu'il ne faut pas prier en public, mais il dit que c'est mauvais de prier pour être vu. Et il dit que quand vous faites de bonnes œuvres, ne les faites pas pour que les autres vous apprécient. Et si nous sommes tous très honnêtes et l'honnêteté avec soi-même est la pilule la plus dure à avaler. Quand vous venez à un message comme ça, je sais que vous pensez déjà à tous ceux que vous auriez voulu qu'ils soient là. Vous vous dites, oh mince alors, si un tel était ici, ou si je pouvais faire venir mon fils ici, si je pouvais faire venir mon mari ici ce soir, la bonne nouvelle est que vous êtes ici. Dieu vous a fait venir ici et ceci est pour vous. C'est très facile de faire face à la vérité de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas très facile de faire face à notre propre vérité. Mais si nous pouvons le faire, nous pourrons passer à un nouveau niveau. Donc si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre que, au moins jusqu'à ce que nous apprenions mieux, et il faut pas mal de matchs de catch avec Dieu pour apprendre mieux, nous voulons nous impressionner les uns les autres. N'ayez pas l'air si innocent. N'essayez même pas ça avec moi. Vous avez tous fait comme ça. Je suis arrivée pendant les trois dernières années à la conclusion que nous ne saurons jamais ce qu'est la liberté jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de nous impressionner les uns les autres. C'est à ce moment-là que nous serons libres, quand nous ferons ce que nous ferons pour le Seigneur. Parce que nous l'aimons et que nous ne nous soucions que de ce qu'il pense. Et que nous ne nous laissons pas entraîner par ce que tous les autres pensent de ce que nous faisons. Donc nous devons commencer. Si nous voulons jamais que notre cœur soit juste, nous devons commencer par comprendre les motifs. Et je suggère que vous preniez quelque temps cette semaine pour vous réunir avec vous-même. Prenez rendez-vous sur votre agenda. Réservez une demi-journée avec vous-même. Et si vous ne pouvez pas vous supporter pour longtemps, commencez par de petits incréments. J'aime passer du temps avec moi-même, mais il m'a fallu du temps pour y parvenir. Réunissez-vous avec vous-même. Et je veux que vous notiez tout ce que vous faites. Et ensuite, posez-vous la question, pourquoi je fais ça? Et croyez-moi, si vous êtes honnête, vous n'aurez plus un programme chargé, car vous pouvez en enlever un tas de trucs dans cette réunion de 4 heures. Car nous ne savons même pas parfois pourquoi nous faisons les trucs. Quelqu'un me l'a demandé et je ne veux pas le fâcher, je l'ai fait. Quelqu'un s'attend à ce que je le fasse et je ne sens pas que Dieu veut que je le fasse, mais on s'attend à ce que je le fasse. Ou bien nous ne voulons pas. Je faisais des trucs parce que je voulais savoir ce qui se passait. J'étais curieuse. Je vous dis la vérité. Et je faisais partie de comités et de groupes parce que je voulais savoir ce qui se passait. Je parle de groupes d'église, de comités d'église. Non, mais j'ai poussé et poussé et supplié mon mari de devenir un aîné dans l'église. Et je crois en fait que pour Dave, ça lui était complètement égal. Parce qu'il n'essaye d'impressionner personne, il essaye d'aimer Dieu et de vivre sa vie. Mais moi, je voulais savoir tout ce qui se passait. Je voulais qu'il assiste aux réunions des aînés pour entrer à la maison et tout me raconter. Vous serez donc étonnés de ce que vous découvrirez chez vous si vous devenez vraiment, vraiment, vraiment honnête. Écoutez-moi, un jour, j'étais dans un institut de beauté et... C'était à l'époque où tout le monde portait ses pins de Jésus en diamant fantaisie. Quelqu'un se rappelle les pins de Jésus en diamant fantaisie? Quelqu'un en a toujours? Bien. Et donc, je portais mon pin dans l'Institut de beauté. Et il y avait une dame là-dedans qui l'a admirée. Oh, c'est vraiment beau. Et une dame m'a dit qu'elle était infirmière dans un centre anticancéreux. Et ensuite, elle a dit, tu sais, je suis chrétienne, mais elle a dit que c'était très dur. Et elle a dit, j'aimerais vraiment pouvoir parler aux gens de Jésus, mais l'hôpital ne nous le permet pas. Et donc, j'ai eu cette idée. Eh bien, vous savez, si elle avait ce pin, et quand elle se pencherait sur les patients, ils pourraient voir le nom de Jésus. Maintenant, vous voyez, jusqu'ici, ça va très bien. Et ce nom, juste ce nom de Jésus, les aiderait vraiment. Donc, je me suis dit, bien, je vais lui donner ce pin. Donc, je pensais que je devais le lui donner en privé, mais j'ai pensé, eh bien, comment vais-je faire ça? Et si elle quittait l'Institut de beauté avant moi? Et à ce moment-là, la fille qui faisait mes ongles s'est levée et elle a dit, Joyce, nous n'avons plus la poudre que nous utilisons et le fournisseur est à côté. Je vais aller en chercher et je reviendrai dans un instant. Elle m'a laissée assise avec cette dame et nous étions complètement seuls. Dieu m'a fourni l'occasion parfaite pour lui dire que je sens que Dieu veut que je te donne ceci, et c'est ce dont il m'a parlé, et ensuite m'occuper de mes propres affaires. Mais oh non! Non! Je devais attendre le retour de l'autre dame, car j'avais ce débat dans ma pensée. Eh bien, vous savez, il lui serait très utile de me voir donner ce pin, et elle comprendrait sûrement que le don fait partie de la vie chrétienne, et ceci pourrait l'aider à donner. J'étais vraiment une femme si charnelle et si stupide. Et quand j'ai quitté le magasin, Dieu m'a dit, j'espère que tu as aimé ça, car c'est toute la récompense que tu auras. Ensuite, je me suis rendu compte. C'était charnel, 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 charnel. Et je suis sûre que vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps pour trouver quelques trucs comme ça dans votre vie. Nous voulons être vus. Nous voulons être remarqués, nous voulons être appréciés, nous voulons être remerciés. Nous voulons que quelqu'un nous applaudisse et nous récompense. Et tout ceci est très bien si Dieu vous le donne. Mais si vous trichez pour l'avoir, vous perdez. Votre récompense. Je ne veux pas perdre mon temps et perdre ma récompense. Donc je suis là pour vous dire du fond de mon cœur que je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis là pour vous enseigner et je vais le faire d'une façon ou d'une autre. Vous allez comprendre ce message. Maintenant, nous allons commencer à parler des différentes maladies de cœur. La première maladie de cœur dont je veux vous parler est la dureté de cœur. La Bible a en fait beaucoup à dire d'un cœur dur. Hébreux 3, 7, 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte d'Israël, où ils m'ont provoqué et irrité le jour de la tentation dans le désert. Quand vous endurcissez votre cœur, vous entendrez ce que vous voulez entendre et non pas Dieu. En l'endurcissant et en ne réagissant pas à la voix de Dieu, vous aurez l'audition sélective. Vous serez atteint de la surdité spirituelle. Et vous voulez toujours que Dieu vous parle et... Il vous parle, mais vous ne voulez pas entendre ce qu'il a à dire. Quand vous endurcissez votre cœur, il vous sera difficile d'avoir la foi enfantine et de croire vraiment Dieu. Il est très important de garder un cœur tendre devant Dieu. Nous avons chanté un cantique qui dit « Brise mon cœur avec ce qui brise le tien ». Et je crois que nous devons demander à Dieu d'attendrir nos cœurs. Et j'ai pensé à l'attendrissement du cœur. Et il y a deux moyens pour avoir ceci, et l'un d'entre eux est beaucoup plus préférable à l'autre. Si je veux attendrir une pièce de viande, je peux utiliser un couperet. Et j'y ai pensé trop tard. Je voulais l'avoir ici, mais je n'ai pas eu le temps de me le procurer. Je vous prie donc d'utiliser votre imagination. Non, mais je voyais ma mère à l'époque où j'étais enfant. Peut-être qu'on n'avait pas d'autre moyen pour attendrir la viande, mais elle achetait une pièce de viande et elle prenait ce couperet, elle l'abattait. Eh bien, il y a un autre moyen pour nous attendrir, et c'est la méthode de mariner. Je connais quelqu'un qui cuit le meilleur steak que j'ai jamais goûté de ma vie, et il le met à mariner dans quelque chose toute la journée. Et quand je mets mon cœur à mariner en présence de Dieu, il devient vraiment tendre. Car vous ne pouvez pas fréquenter Dieu pour longtemps et ne pas lui ressembler. Donc, je préfère la méthode de mariner. Mais si vous ne voulez pas passer du temps avec Dieu et vous ne voulez pas prendre le chemin facile, Dieu peut vous arranger des circonstances. Et quand vous aurez fini, vous sentirez que vous avez suivi le processus du couperet. Quelqu'un est avec moi là-bas? Bien. Mais nous devons veiller à garder nos consciences ainsi que nos cœurs tendres à l'égard de Dieu.